terrorist states. Terrorist networks.
Et non, nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des animateurs de radio. Un animateur de radio qui aujourd'hui est tout seul dans son bocal, puisque Anel Navarro n'a pu nous rejoindre. On lui souhaite eh bien, d'aller tout bien comme il faut. Et puis Pascal Rullier est en ce moment même dans sa voiture. Il revient d'une escapade en terre pyrénéenne où il a sans doute dû aller poser quelques antennes Wi-Fi quelque part entre une montagne et une autre montagne. Il est comme ça, Pascal Rullier, et il est un petit peu avec nous car il est peut-être en train d'entrer dans notre zone de couverture. Alors, si tu nous entends, Pascal, sors l'ordinateur portable de ton tableau de bord, connecte-toi sur le chat et dis-nous que oui, tu es un vrai geek car tu nous écoutes en chattant au volant, ce qui n'est vraiment pas prudent. Trêve de balivernes aujourd'hui, ce sera donc version solo avec les indispensables nouvelles du front qu'on va aller piocher un petit peu à l'arraché en live, mais c'est ça aussi les aléas du direct. Mais on aura un gros morceau puisqu'on parlera du Québec et des logiciels libres avec un des représentants de l'association Facile pour l'appropriation collective de l'informatique libre qui a essuyé l'incompréhension de son propre gouvernement et qui nous racontera un petit peu la difficulté de promouvoir et de défendre le logiciel libre au Québec. C'est Daniel Pascot du département des SIO à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université de Laval que nous aurons au téléphone aux alentours de 19h15. Mais pour l'heure, des nouvelles du front et ça démarre tout de suite.
Les nouvelles du front.
Rapport Gallo sur le futur du droit d'auteur dans l'Union européenne. Pas de compromis sur nos libertés, titre La Quadrature du Net. Quelques heures avant le vote sur le rapport Gallo concernant le futur du droit d'auteur dans l'Union européenne, la rapporteure Marielle Gallo essayait d'inciter ses collègues à voter de faux amendements de compromis. Madame Gallo tentait de dissimuler l'incompatibilité entre deux positions contradictoires. D'un côté, la logique ultra-répressive de la rapporteure contre le partage de fichiers en ligne, ainsi que son soutien à l'accord ACTA et à la création de polices privées du droit d'auteur, et de l'autre côté la compréhension qu'une économie florissante de la création se construirait avec les internautes et non contre eux. Il est de notre devoir à nous citoyens d'aider les membres de la commission jury à prendre la bonne décision en protégeant les libertés fondamentales et l'intérêt général. Le vote sur les amendements déposés sur le projet de rapport de Marielle Gallo sur le renforcement de l'application des droits de propriété intellectuelle a eu lieu ce mardi 1er juin vers 12h30. Un texte non législatif, une importante déclaration politique au Parlement européen qui aura un impact sur le futur de la politique concernant le droit d'auteur dans l'Union européenne. La rapporteuse membre de l'UMP présentait un texte ultra répressif. Son projet de rapport soutenait l'accord ACTA, incitant à créer de nouvelles sanctions pénales et encourageant la création de polices privées du droit d'auteur, similaire au modèle de riposte graduée de la loi française Hadopi ou de la Digital Economy Bill britannique. Cette répression aveugle, basée sur une conception archaïque du droit d'auteur, ne peut que porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté de communication, le droit à un procès équitable et le respect de la vie privée. D'un autre côté, de bons amendements demandent l'introduction de flexibilité de telle sorte que notre cadre législatif puisse évoluer avec les nouvelles technologies et les pratiques sociales, assurant ainsi le financement des auteurs et des artistes tout en préservant le principe de proportionnalité et l'état de droit. La rapporteure Gallo tentait de piéger ses collègues en leur faisant croire que ses propres amendements, qui ont déjà été rejetés par les représentants de différents groupes politiques, sont le fruit d'un compromis. Ces faux amendements de compromis doivent être rejetés pour s'assurer qu'un débat digne de ce nom ait lieu et que les amendements constructifs puissent être adoptés. Jérémy Zimmermann conclut le porte-parole de la Quadrature du Net par les faux amendements de compromis de Marielle Gallo visent à éviter un débat ouvert sur la nécessité d'adapter le droit d'auteur à l'ère numérique tout en défendant les libertés fondamentales. Son attitude montre peu de considération pour ses collègues de la commission jury du Parlement européen. Tout citoyen attaché à Internet et à la protection des libertés fondamentales doit contacter les membres de la commission jury pour s'assurer qu'ils sont correctement informés des enjeux de ce vote. On le voit, quand un projet de loi chasse l'autre. Et on reparlera un petit peu plus tard de l'ACTA. En tout cas, renseignez-vous sur laquadrature.net, un site ressource pour vos libertés dans l'espace du web et de l'informatique plus généralement. La musique qui va nous accompagner pendant toute cette édition 77 de Divergence Numérique, c'est un groupe qui s'appelle The Doms, qu'on peut retrouver sur www.the-doms.com, un site tout en flèche qui ne veut pas s'ouvrir sur mon navigateur. On écoute le premier extrait de leur album éponyme. L'album non s'appelle Another Day et c'est I Was Alone qu'on écoute tout de suite. Il était tout seul, I Was Alone, extrait de l'album Another Day du groupe The Doms qui nous accompagne dans cette divergence numérique. C'est sous licence Creative Commons by NCND 2.5, une autoproduction avec même des vrais Larsen de la campagne. Donc voilà, c'est en tout cas assez bien senti, pourrait-on dire. Ils sont de Conflans-Sainte-Honorine, figurez-vous, c'est quand même remarquable. On poursuit avec quelques petites nouvelles. Par exemple, à l'occasion de... Ben non, je ne vais pas lire celle-là parce qu'elle est un petit peu datée. Soyons francs. Pas mal d'activités sur le site linuxfr.org, la bible du geek, pourrait-on dire. En tout cas, un des sites que tout le monde visite forcément, qui sont en train de pas mal travailler sur la modération du site, etc. Vu le nombre de dépêches, on comprend que ça constitue une tâche assez importante. Et puis, dans un autre registre, un site qui tourne avec le logiciel Template et qui sont en train de réécrire depuis le début de l'année 2009 en Ruby on Rails. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont super intéressés et qui ont tout compris dans ce que j'ai dit. Moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. On évoquait l'autre fois le possible rachat de Mandriva Linux. Sachez que afin de permettre une meilleure communication entre l'association des utilisateurs de Mandriva Linux, les contributeurs et les utilisateurs sont désormais organisés des rencontres bimestrielles pouvant devenir mensuelles si le succès est au rendez-vous. La première aura lieu ce mercredi 9 juin de 20h à 22h30. Donc pour tous ceux qui peut-être s'inquiètent car ils sont utilisateurs ou super utilisateurs de la distribution Mandriva, de son devenir, eh bien, fédérez-vous à plusieurs, on est toujours plus fort. Ils sont présents sur le salon Jabber sur mandrivafr_debat@chat.jabberfr.org. Vous avez tout retenu, eh bien moi non plus. On va écouter une autre pause musicale puisque à 19h15 nous serons au téléphone avec Daniel Pascoe pour parler de Facile, une association d'importance qui promeut les logiciels libres au Québec et qui a pas mal essuyé de bagarres juridiques sur son territoire, et ce sera tout de suite après le deuxième extrait de l'album de The Doms qui s'appelle You Say Goodbye. The Doms, une musique sous licence Creative Commons by NCND 2.5. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, eh bien, nous sommes à présent au téléphone avec Daniel Pascoe. Bonsoir.
Oui, bonjour.
Alors bonjour pour vous, parce que vous êtes à Québec, à l'Université de Laval, dans votre bureau.
À l'Université Laval, parce qu'elle se trouve à Québec plus précisément. Oui, je suis dans mon bureau.
Alors, on vous reçoit eh bien, en tant que membre de FACIL, une association qui milite au Québec pour l'appropriation collective de l'informatique libre et qui organise ou participe à plusieurs autres activités au sujet des logiciels libres et des standards ouverts. Peut-être avant de parler de la difficulté d'agir peut-être par moment au Québec sur ce sujet, pardon, est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs un ordre de grandeur de l'association elle-même, sa présentation, son histoire.
L'association a pour l'instant probablement une centaine de membres. Quand je dis probablement, on est en période de recrutement et on fait le point à l'heure actuelle. Elle est constituée d'un conseil d'administration d'une douzaine de membres, dont j'ai hérité de la présidence il y a quelques jours. Et son but est vraiment de promouvoir d'une manière ou d'une autre le logiciel libre et la pénétration du logiciel libre et de la liberté d'une manière générale d'accès à nos informations. Et donc nous essayons d'organiser un certain nombre d'activités qui sont plutôt de l'activité de type un peu lobbying. Par exemple, nous avons appuyé une petite compagnie québécoise, mais dont le propriétaire est d'origine française. D'ailleurs, si vous entendez mon accent, il est plus français que canadien. J'ai émigré ici il y a une trentaine d'années.
D'accord.
Qui a poursuivi le gouvernement du Québec pour abus de procédure d'achat qui contourne le processus d'appel d'offres. La firme est Savoir-faire Linux. Et d'ailleurs, on a une très bonne nouvelle aujourd'hui. Le jugement vient de sortir et le gouvernement a été condamné à, dans son activité d'achat systématique de logiciels de Microsoft sans recourir à un appel d'offres.
C'est une bonne nouvelle.
Une bonne journée. Alors, il faut dire que Cyril Béraud était en même temps président de FACIL et président à ce moment-là président de FACIL et... Ah, excusez-moi, je suis fatigué aujourd'hui. Président de Savoir-faire Linux et de FACIL en même temps. Donc FACIL, c'était une organisation, je qualifierais un petit peu de barbu, mais sans aspect négatif, qui évoluait, qui végétait un peu. Et dans cette action de poursuite plus solide auprès des résistances face au logiciel libre, donc on a essayé de remonter FACIL et on a appuyé le Savoir-faire Linux dans sa poursuite, en faisant aussi, du point de vue de FACIL, une poursuite que, finalement, on a perdue. En disant, comme vous achetez systématiquement un logiciel privateur qui nous oblige à utiliser certains formats que l'on ne voudrait pas utiliser, et vous en avez acheté pour 10 millions de dollars depuis 3 mois, on dit que vous gaspillez notre argent et que vous nous imposez. On a été rejeté à ce niveau-là. Mais pour nous, on savait qu'on allait être rejeté. Le but, c'est d'arriver à faire en sorte que la presse parle du logiciel libre dans notre environnement. Et ça, c'est très difficile. Et une façon de le faire, c'est de créer des situations qui amènent le journaliste à s'intéresser à nous. Et par exemple, FACIL, on nous a poursuivis, le gouvernement a retourné en disant « Vous nous avez poursuivis abusivement, on va vous utiliser telle loi pour vous demander 100 000 $ ». Évidemment, 100 000 dollars à FACIL, c'était notre mort. Mais ça a été très bien pour nous, parce que de toute façon, sa requête a été rejetée. Mais on a eu des interventions dans la presse, largement au Québec ou un peu à travers le monde, grâce à cette intervention. Alors on essaye d'avoir des actions, par exemple au niveau d'ACTA, au niveau de la poursuite du gouvernement en ce moment. Et on essaye de pousser un certain nombre de projets qui sensibilisent le public à l'intérêt du logiciel libre d'une manière ou d'une autre.
Alors, est-ce que on connaît évidemment en Europe et en France plus particulièrement, on va dire, ce problème? Alors souvent, c'est pour rester dans la diplomatie, on dit simplement que les politiques ne sont pas bien informés. Donc, il y a un gros travail d'information qui est fait auprès des parlementaires et des élus par bien les associations en France, comme l'April, comme la Quadrature ou d'autres. Mais il y a aussi, et puis on le voit bien quand on observe un peu les techniques de lobbying qui se pratiquent à Bruxelles, on sait bien qu'il y a soit on est mal informé, soit on est un peu finalement corrompu en quelque sorte. Est-ce que on oscille au Québec aussi entre l'ingénuité et la culpabilité?
Oh, tout à fait, ça ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, c'est là, au départ, quand Savoir-Faire Linux a attaqué le gouvernement pour non-respect de ses propres règles, c'est-à-dire en allant systématiquement dans des achats plutôt que des appels d'offres, j'étais un peu dubitatif. Mais je pense que son action va devenir très importante, parce que ce qu'il faut comprendre des gouvernements ou des fonctionnaires, c'est qu'ils doivent être fidèles à leurs ministres. Et pour être fidèle au ministre, il ne faut pas avoir de tâches dans son dossier. Or, à l'heure actuelle, pour ces gens-là, signer Microsoft, c'était la grande sécurité, ils étaient calmes, il n'y avait plus de problème. Le jugement qui vient d'avoir lieu est en train de dire, mais attention, si vous faites ça, là vous allez avoir un problème, parce que moi je vous reproche de ne pas aller en appel d'offres en ne suivant pas vos propres règles. Et donc maintenant, un responsable de système informatique dans le gouvernement va y réfléchir à deux fois avant de passer une commande à Microsoft sans aller à un appel d'offres. Et à partir du moment où ils sont obligés d'aller en appel d'offres, ben nous, au moins, les gens du logiciel libre vont être capables de présenter des solutions. Alors qu'à l'heure actuelle, on n'a même pas droit d'entrée pour aller présenter des solutions dans le gouvernement. Et comme on a plutôt l'aspect, je veux dire, on a développé quelques contacts avec des journalistes, on arrive maintenant à faire passer l'information de cette manière-là, ce qui fait que l'attitude des acheteurs va changer dans une certaine mesure. D'autant plus qu'on sait qu'au niveau des gens qui travaillent sur le terrain, ils sont loin d'être tous allergiques à l'idée du logiciel libre. Mais ils sont barrés, ils ne peuvent pas en parler, ce n'est pas eux qui décident. Donc ça va probablement faire une certaine dynamique, au moins au Québec. On va voir dans les mois à venir, mais ça peut avoir un impact très important. Et parce qu'il faut bien reconnaître, c'est comme chez vous, le lobbying de Microsoft est assez important. D'autant plus qu'ils peuvent être efficaces de deux manières, par, disons, une certaine corruption, mais il y a des gens qui s'auto-corrompent tout seuls. Hein. C'est la sécurité, c'est la tranquillité pour eux, donc on ne va pas chercher à réfléchir plus, on va continuer avec ce qu'on a et on n'a pas de problème.
Alors, en France, il y a eu en quelque sorte un levier assez important finalement, et auquel beaucoup de geeks n'auraient pas nécessairement pensé. Quoique, c'est l'armée qui, en France, dès les années 2001-2003, je me souviens plus trop, avait expliqué que sécurité nationale rimait avec code accessible et format ouvert, en quelque sorte. On a eu l'Assemblée nationale qui est passée sous Ubuntu, la gendarmerie s'est mise à OpenOffice. Donc les choses avancent, et c'est vrai que quand dans le gouvernement français, on nous propose des DAD, VSI, des lois Hadopi et autres bizarreries, on se dit que c'est un petit peu une société un peu schizophrène ou plutôt avec un dédoublement de la personnalité où d'un côté on va dans un bon sens et puis de l'autre on tire dans l'autre sens. Du coup, les deux forces s'opposent, on n'avance pas beaucoup. Est-ce que c'est... Alors, chaque année aux rencontres mondiales des logiciels libres en France, on retrouve des intervenants qui viennent du Québec et qui font des choses très intéressantes en logiciel libre au Québec, parfois même dans le monde de l'éducation, avec l'appui des autorités. Est-ce qu'il y a aussi cette bizarrerie où, au niveau de l'appareil politique au Québec, les gens tirent dans des sens opposés et n'avancent pas, pour le coup?
Je penserais que oui. Les situations se ressemblent un petit peu et c'est assez bizarre. Vous avez l'impression en France que le Québec est en avance. Nous, on a l'impression que depuis le Québec, que la France est en avance. Par exemple, pour l'armée, ça n'a pas trop d'importance au Québec dans la mesure où l'armée, c'est un problème fédéral et non pas provincial.
Tout à fait.
Mais l'armée a le même avis que l'armée dans les autres pays pour la sécurité. Mais c'est très difficile à faire circuler dans le public cette idée-là. Mais par exemple, je dois rencontrer demain Marie Malavoie, qui est une députée du Parti québécois, donc qui est dans l'opposition à l'heure actuelle, et qui voudrait faire en sorte que l'Assemblée nationale utilise un poste de travail libre à l'image de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale en France. Maintenant, si on prend l'éducation, l'éducation est au niveau officiel du ministère assez fortement noyauté Microsoft. Au niveau du terrain, il y a pas mal de logiciels libres qui circulent dans différents endroits. Et il y a des initiatives intéressantes. Mais l'initiative officielle du gouvernement, qui est une espèce de coopérative pour les écoles, qui s'appelle la GRIX, elle est noyautée par Microsoft. Et ils avaient quelqu'un, logiciel libre, André Cotte, qui est d'ailleurs membre du CEAD Facile, qui vient non pas d'être remercié de la GRIX, mais dont on a dit, écoute, ton activité logiciel libre, là, tu vas aller l'exercer ailleurs. On ferme cette branche dans la GRIX. Donc on a ce côté schizophrène, où d'un côté, il y a un certain nombre de choses. D'un côté, il y a des blocages assez systématiques. Quand on préparait la poursuite, de temps en temps, j'ai des contacts avec le service des achats dans le gouvernement, et ils savaient que je suivais avec beaucoup d'intérêt le procès de savoir-faire Linux. Et il y a un gars avec qui je travaillais sur un projet de mesure des coûts qui me dit, écoute, je suis obligé de supporter, d'aider le gouvernement à se défendre, mais j'espère que tu vas gagner. Donc on trouve ces situations-là à différents niveaux.
Alors, au-delà de l'action, on va dire, envers le politique, j'imagine que y a des entreprises aussi qui commencent au Québec à se dire que ça fait quelque temps que j'y pense, que je réfléchis à tout ça, et je me dis que je ferais peut-être bien de changer de crèmerie. Et puis, le public, le grand public, l'utilisateur d'ordinateurs personnels chez lui, est-ce que vous avez des indices qui peuvent nous donner un état de l'avancement des systèmes d'exploitation libre?
Par exemple, il y a une association qui vient de se créer qui s'appelle l'APEL, l'Association pour la promotion des entreprises de logiciels libres, qui, elle, est un regroupement de, à l'heure actuelle, je ne sais plus exactement, 8 ou 10 entreprises dont Savoir-faire Linux fait partie, qui essayent de s'organiser en relativement lobby par rapport au gouvernement. Je parle souvent du gouvernement parce qu'à Québec, l'essentiel d'une grosse partie de l'activité est du gouvernement. Tandis qu'à Montréal, on va viser beaucoup plus les organisations. Mais dans le grand public, il n'y a vraiment pas encore de sensibilité. Il y a bien des petites associations comme l'INUC qui essayent de faire la promotion du logiciel libre et qui fait des journées de portes ouvertes pour installer du logiciel. Mais quand on reçoit une quinzaine de personnes, on est assez content. On dit qu'on a une réussite. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des choses comme Québec OS, par exemple, qui fait une veille sur toutes les... Quand on regarde un peu, ils ont autant de lecteurs français que de lecteurs québécois, d'ailleurs. Mais on sent que, par exemple, moi, j'ai des relations suivies avec un journaliste dans le journal de la région qui s'appelle Le Soleil, et il vient de nous sortir deux, trois articles très intéressants. Et là, on sent qu'il y a quelque chose. Mais dans mon université, par exemple, c'est assez lamentable. C'est Microsoft de mur à mur. Et si mon poste est en logiciel libre depuis 10 ans, je ne suis que toléré à l'intérieur de cette université.
Oui, c'est un petit peu propre au continent nord-américain, j'ai envie de dire, le fait que les universités soient parrainées, en quelque sorte.
Oui, mais peut-être mon université une des pires. Parce qu'il y a même une université comme HEC, par exemple, conseille à ses étudiants d'utiliser Firefox plutôt qu'Internet Explorer et à installer du logiciel libre assez largement dans son infrastructure pour gérer ses courriels, etc. Donc, il y a une hétérogénéité à travers le territoire, là.
En tout cas, vous faisiez allusion à Marie Malavoie. C'est vrai que si à la Commission des finances publiques, on commence à réclamer des logiciels libres, peut-être qu'il y a déjà quand même des voies d'espoir. Et puis c'est vrai que quand on étudie les argumentaires, etc., on a quand même le sentiment que, on va dire, que le développement des logiciels libres et l'évolution du système de propriété intellectuelle qui a été le nôtre depuis la révolution industrielle, pourrait-on dire, changera inéluctablement. La question, c'est quand et qu'est-ce qui coince ?
Oui, c'est ça. D'ailleurs, si le Parti québécois commence à s'intéresser très fermement aux logiciels libres, c'est le résultat en bonne partie de l'activité de Facile depuis 2 ans, où on a essayé de s'inspirer d'une campagne de l'April avec le pacte du logiciel libre, en allant contacter systématiquement pour chaque élection les différents partis. Et on a eu une assez bonne prise face au Parti québécois qui a mis le logiciel libre dans sa stratégie et dans son programme. Et comme il y a d'assez bonnes chances que le prochain parti d'ici 1 ou 2 ans soit le Parti québécois, devienne notre parti majoritaire, parce que le Parti libéral à l'heure actuelle a pas mal de plomb dans l'aile, ça nous donne une bonne chance. Sur les quatre autres partis ont mis le logiciel libre à leur programme. Les Verts, c'était clair depuis longtemps. Un autre petit parti, ADQ, il est d'accord aussi avec ça. Et il y a un Québec solidaire qui n'est pas très fermement branché, mais ça ne devrait pas poser de problème.
Pour terminer, qu'en est-il du Canada et de l'État fédéral par rapport à cette question ?
C'est un petit peu la même chose, sauf qu'au niveau fédéral, il y a quand même une ouverture explicite beaucoup plus importante face au logiciel libre. Mmh. En particulier, je disais, pour l'armée, qui est assez systématiquement ouverte et promoteuse de logiciels libres. Donc il y a un certain nombre d'activités, et si on va sur le gouvernement fédéral au service des achats, il y a même une démarche de recueillir systématiquement l'offre des logiciels libres ou du service en logiciel libre. Donc je dirais que c'est plus ouvert du côté fédéral en ce moment. Mmh. Maintenant, paradoxalement, au Québec, le fait que Savoir-faire Linux et Facile se soit mis à poursuivre le gouvernement pour ses pratiques a figé les choses pendant 2 ans, puisque la poursuite a été entamée il y a presque 2 ans, là, maintenant. Mmh. Maintenant, le jugement vient de sortir, je vous disais, aujourd'hui. Là, il est très intéressant à lire, où vraiment le juge a fait un très, très bon travail d'analyse et a démonté, en quelque sorte, le caractère abusif du contrôle de Microsoft et de son attitude monopolistique face à ça. Donc c'est assez intéressant. Et donc ça peut-être, après une période de dégel de 2 ans, de gel de 2 ans, arriver à un dégel assez rapide à l'heure actuelle.
Bah, c'est sur cette bonne nouvelle qu'on va se quitter. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Daniel Pascaud. Et puis, on souhaite que la centaine d'adhérents de Facile trouve un zéro de plus rapidement.
Oui, merci beaucoup. Et on pourra se rencontrer probablement au RMLL, parce que je vais aller y passer quelques jours.
Eh bien, nous y verrons indubitablement. Merci beaucoup.
D'accord, merci à vous.
Au revoir. Au revoir. We'll be right back.
et c'est rondement mené. The DOMS, c'est sous licence Creative Commons by NCND 2.5. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, il faut citer le groupe. NC, il ne faut pas en faire d'utilisation commerciale sans son autorisation. Et ND, no derivative, il ne faut pas faire de remix ou de travaux dérivés sans son autorisation. Et voilà. Et si ça vous a plu, eh bien, je vous en propose un autre. On écoutait juste à l'instant Try to Say et on va essayer de dire le suivant Along This Way. Along This Way, The DOMS, c'est du Creative Commons, c'est le fil rouge de cette divergence numérique. Et puis, eh bien, à l'instant, on était au téléphone donc, avec un représentant de Facile qui évoquait l'ACTA. L'ACTA, on en parle souvent et c'est vrai que pour ne pas faire trop dans la malédiction du savoir, comme dirait Christian Coste, sachez tout de même qu'Azaco, depuis le printemps 2008, ça dure cette affaire, où l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, l'Australie ainsi qu'un certain nombre d'autres pays avaient commencé à négocier secrètement un accord commercial destiné à lutter contre la contrefaçon. Le Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ce qui donne ACTA dans le texte. On parle bien de contrefaçon, genre, voici les fausses Rolex que vous trouvez par milliers dans les rues partout, ou des méchants quoi, qui font des faux trucs et qui les vendent et qui font de l'argent avec ça, vous voyez, comprenez quoi. Suite à des fuites de documents confidentiels, lequel il apparaissait clairement que l'un des buts principaux de ce traité est de forcer les pays signataires à mettre en place des mesures de répression de partage d'œuvres sur Internet sous la forme de ripostes graduées et de filtrage du net. Alors que d'importants débats ont lieu sur la nécessité d'adapter le droit d'auteur à l'ère numérique, ce traité cherche à contourner les processus démocratiques afin d'imposer par la généralisation de mesures répressives un régime juridique fondamentalement dépassé. Vous retrouverez l'intégralité du dossier avec les positions des divers acteurs. Résolution du Parlement européen, tracté, affiche, commentaire de HAI Europe sur la consultation des parties prenantes de l'ACTA, fuite de la version consolidée du texte du janvier 2010, proposition de l'International Federation of Library Associations and Institutions, la Fédération internationale des associations de librairies et d'institutions, la lettre ouverte aux institutions européennes de la Quadrature, une analyse du chapitre Internet par la Commission européenne, plein d'éléments qui vous aideront à y voir plus clair dans ce dossier que vous retrouvez bien évidemment sur www.laquadrature.net. Et puis sachez que l'Union européenne, par le biais de sa commission aux affaires juridiques, vient d'adopter le fameux rapport Gallo dont on parlait tout à l'heure. C'était le 1er juin. Le texte vise à renforcer notamment l'application du droit d'auteur sur Internet et par conséquent condamner les internautes surpris en train de télécharger illégalement du contenu culturel. Vos photos de vacances sont aussi du contenu culturel. Outre Reporters sans frontières, la Quadrature du Net juge qu'il s'agit là d'un, je cite, appel de plus à la répression. Toujours Jérémy Zimmermann, le porte-parole, qui estime que le rapport Gallo montre à quel point le lobbyisme de quelques industries anachroniques peut être puissant sur le Parlement européen. Leur influence sur le processus législatif va à l'encontre de l'intérêt général et empêche le Parlement d'explorer les pistes d'une nouvelle économie créative. On n'est pas sorti de l'auberge, pourrait-on dire. Mais oui, on peut le dire et on ne va pas se gêner pour le dire. Une petite pause musicale avec On Your Life, toujours avec The Doms. Voilà, c'était On Your Life. On avait sauté It's Alright, mais on l'écoutera après. Ce n'est pas grave. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, il est arrivé. Pascal Rullier est dans les studios de Divergence et il était déjà à l'écoute alors que nous démarrions cette émission. En le taquinant gentiment à l'autre bout du tunnel.
Et oui, sur l'autoroute du côté de Pézenas, là où j'ai capté Divergence FM avec l'émission précédente et puis évidemment l'intro. Évidemment, je ne chatte pas au volant, je me concentre sur la route et à ceux qui déboîtent inopinément.
Ce qui ne me surprend pas, parce que si tu me dis que tu étais à Pézenas à cette heure-là, ça veut dire que tu as troqué ta petite citadine pour un gros V8.
Non, non, c'est toujours la même, mais je lui ai mis une cape sur le...
D'accord. Tous les super-héros mettent une cape à leur voiture, c'est bien connu.
Évidemment. En tout cas, une divergence numérique qu'on ne loupe absolument pas.
Voilà, voilà. Et du coup, tu vas nous sortir une petite news de linuxfr.org, car tu as droit à ta petite news. Il est 19h47, on a encore le temps avant de se quitter.
Et oui, le logiciel libre ou comment ça marche pour aider à sensibiliser de nouveaux publics aux enjeux du logiciel libre. Le groupe de travail sensibilisation de l'April a créé le dépliant Le logiciel libre, comment ça marche. Un document de vulgarisation clair introduit le logiciel libre et donne quelques clés pour approfondir sa compréhension. Le document est sous licence libre et sa diffusion au plus grand nombre est fortement encouragée. Donc, un groupe de travail sensibilisation de l'April créé en 2007 et donc pour objectif principal de faire connaître le logiciel libre et ses enjeux au plus grand nombre. Un objectif réalisé via la production, l'inventaire et l'amélioration des ressources de communication autour du libre. Les divers outils de sensibilisation sont publiés donc sous licence libre dans des formats ouverts et donc facilement adaptables aux besoins de tout public intéressé, adhérent, association, etc. Donc, la toute dernière réalisation de ce groupe, c'est le logiciel libre « Comment ça marche ?». Vous l'avez compris, il s'agit d'un document présentant de façon imagée une idée de la fabrication d'un logiciel libre. Afin de souligner différentes facettes du logiciel libre, la démarche est découpée en 6 étapes principales, les prémices d'un logiciel, les premières contributions, les premiers essais de fonctionnement, les modifications apportées, l'utilisation à plus grande échelle, l'évolution rapide des fonctionnalités. Donc, vous pouvez directement aller sur le site de april.org et puis vous allez retrouver évidemment ce document. Qui est bien
foutu quand même. Hein. Il y a des jolis petits dessins. C'est bien. C'est bien.
On peut plier aussi le document. Voilà. Donc un document à découvrir pour tous.
Voilà, à découvrir pour tous et par tous. Et saluons encore une fois le travail de l'April dans notre beau pays, la France. Je savais qu'il y avait une autre news, mais est-ce qu'on a encore le temps de s'écouter un petit extrait de The Doms avant de refermer cette émission? Il me semble qu'ils sont assez courts, nous pouvons. Alors on va écouter It's Alright qu'on n'a pas pu écouter tout à l'heure.
Another mouth, another
It's alright, c'est The Doms, THE-DOMS.com, un site que je n'ai pas pu voir, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
En fait, c'est extrait de leur dernier album, pas Another Day, puisque c'est l'avant-dernier. Et It's alright, c'est un des deux morceaux qui composent le début du nouvel album.
Dingue. Terrible. Je suis scotché.
Toujours sur Divergence numérique et toujours en licence Creative Commons by ND 2.5.
Voilà. On sait quand même qu'ils viennent de Conflans-Sainte-Honorine et que leur site est en flash.
Alors justement, parlant musique, faites de la musique en faisant fête, donc fabriquez-la, mais de façon libre. Une petite news dans le cadre des festivités proposées par toute la ville de la Couronne à 5 km d'Angoulême par la municipalité, les Gules Linux Angoulême et 3L à Cognac, ainsi que l'EPN Cyberbase, donc l'espace public numérique, qui organise ensemble une fête de la musique placée sous le signe du libre en date donc du samedi 19 juin 2010 à partir de 15h. Donc c'est à l'EPN Cyberbase à la Couronne avec de la musique assistée par ordinateur par exemple, enregistrement, édition de pistes, présentation de logiciels libres de base, OpenOffice, Firefox, etc. Des jeux musicaux informatiques, Fret on Fire, présentation de lecteurs multimédia et de musique libre, projection de clips vidéo libres. En tout cas une très très bonne initiative.
Et oui, une très bonne initiative, merci Christian. Et entre autres bonnes initiatives, citons les ateliers libres de Montpellier Libre.
Oui, qui se passent tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc des ateliers pratiques sur le thème des logiciels libres, organisés et animés donc, par l'association Montpellier Libre et ses partenaires, dans la thématique des points communs de Kawenga, nos chers voisins. Donc l'association vous propose d'assister au point libre, un grand rendez-vous de tous les spécialistes et passionnés du logiciel libre. Donc ce mois-ci, cet atelier vous présentera l'entreprise ABAE, coucou à AB, et qui s'est spécialisée dans les solutions Internet et réseaux libres. Et ils vous montreront ainsi comment faire un site Internet avec SPIP en moins d'1h30.
Mais il ne sera pas tout seul. Il sera accompagné de Nicolas Villa et Bertrand Martin-Rabot qui essaieront de vous montrer en moins d'1h30 comment mettre en ligne un site SPIP totalement fonctionnel, charte graphique et plugin inclus sans rien y connaître ou presque.
Quelques notions de HTML et un logiciel de FTP sont toutefois nécessaires. Et de 18h30 à 19h, on pourra leur casser la gueule. Et... Non, ils répondront à vos questions, c'est pas ça que je voulais dire. Mais moi, je vais y aller. Je vais y aller parce que je suis nul en trucs comme ça.
Alors aussi, on peut noter que n'oublions pas aussi qu'ils sont présents tous les lundis à la maison Frédéric Chopin à 18h30 pour des ateliers ouverts à tous. C'est libre. N'hésitez pas à y aller avec votre machine, à leur poser toutes les questions.
Et voilà, les questions, eh bien, c'est le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. On va se quitter avec, il nous en reste quelques-uns. Alors, on va, lequel tu préfères, Pascal ? I can't see, give me it up, si je sais pas ce que ça veut dire. Ah. I want.
Qu'est-ce qu'on a ?
Le 7, le 8 ou le 9 ?
Le 8, give me up.
Give me it up.
It up.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est sur cette question étrange que nous nous quitterons. On remercie Eliel Kaïm qui a réalisé cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Même heure, même endroit, même fréquence.
Même punition.
Même émission. We'll be right back.
Where?